Europe 1.
Heures, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Il y a 50 ans, c'était Georges Pompidou, un président qui a été un peu oublié pendant une trentaine d'années, mais qui est aujourd'hui l'objet d'une sorte de vénération. Alors pour en comprendre les ressorts, je reçois ce matin Éric Roussel, son plus éminent biographe. Et puis la Feria de Nîmes ayant lieu dans une dizaine de jours, j'ai invité Yanis Eziadi, l'auteur de Minotaure, pour qu'il nous explique pourquoi il y a encore tant d'amateurs de corrida dans notre pays.
Europe 1.
Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Membre de l'Institut, vous êtes le biographe de Georges Pompidou. Votre livre fait autorité depuis 1984, date de sa sortie. Il vient d'être réédité en poche chez Tempus. Et puis, vous avez collaboré au dictionnaire Pompidou qui vient de paraître chez Fayard. Je le disais, la France de Georges Pompidou est devenue un objet de nostalgie, j'ai envie de dire. Elle nous paraît à la fois très moderne, à la pointe des technologies de l'époque, plus apaisée, moins divisée que la France du général de Gaulle qui avait connu la guerre d'Algérie et mai 68, ou que la France d'Emmanuel Macron. Plus riche aussi, c'était une vraie puissance industrielle, et ça, c'était vraiment à Georges Pompidou qu'on le devait. Premier ministre d'abord pendant 6 ans, puis président de la République. Vous le rappelez dans votre livre, pendant qu'il était à l'Élysée, la France a enregistré la croissance la plus forte d'Europe, 6% par an en moyenne. Aujourd'hui, on a la plus faible de la zone euro.
Oui, alors on dit bon, Pompidou a eu de la chance, c'était ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire un contexte économique globalement favorable dans le monde, enfin en tout cas dans ce qu'on appelait l'Occident. Alors c'est tout à fait vrai. Seulement, ce que l'on peut constater, c'est qu'à la même époque, des pays comparables, par exemple, prenons la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à la même époque, il me semble, plongeait dans la décadence, la crise, enfin, sans fond. La France, au contraire, vous venez de le rappeler, avait des performances qui aujourd'hui font rêver. Donc, on peut tout simplement peut-être en conclure que les choix de Georges Pompidou n'ont quand même pas été si mauvais et qu'il n'y a pas eu simplement, si vous voulez, un effet automatique, en quelque sorte. Voilà.
Une France moderne. C'est fou comme il a cette image d'homme moderne, Georges Pompidou.
Ben, c'est un personnage, si vous voulez, qui est assez qui est plein de, en réalité, de contradictions, de paradoxes, mais c'est qu'on ne peut pas résoudre. Tout cela fait la richesse du personnage et suscite l'intérêt qu'on lui porte. C'est à la fois un homme qui est assez traditionnaliste, qui est assez conservateur, par certains côtés, et ça se voit par exemple dans l'essai qu'il a écrit après les événements de mai 68, qui s'appelle Le Nœud Gordien, et qui vient aussi d'ailleurs d'être réédité chez Tempus et que j'ai préfacé. Et on voit là apparaître une réflexion d'un homme qui se pose vraiment en conservateur face au désordre de mai 68. Mais un conservateur qui est quand même ouvert sur la modernité, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé en mai 68, d'en tirer les conséquences, et qui dit aussi quelque chose d'assez étonnant. La fin de ce livre est la suivante. Le fascisme n'est pas si improbable, il est même peut-être plus probable plus menaçant à terme que le communisme. Alors il faisait allusion au fait que les sociétés modernes risquaient d'être minées par l'individualisme, ce qui commençait à apparaître en mai 68, ce qui était un des ressorts de la révolte de mai 68. Et il en concluait que l'affaiblissement, si vous voulez, des disciplines collectives engendrerait une crise et que cette crise, si elle n'était pas résolue, si vous voulez, par des procédures démocratiques, risquait de susciter l'apparition de ce qu'il appelait un homme fort et casqué. Alors c'est assez étonnant parce que dans le monde, on voit apparaître effectivement en ce moment un certain nombre de tentations de cet ordre. Alors c'était un homme qui était à la fois conservateur et plus conservateur à certains égards que le général, mais qui était aussi très très ouvert sur la modernité. Et c'est ça, à mon avis, aussi qui lui a permis, en mai 1968, d'avoir une appréhension correcte des événements. Pour De Gaulle, ces événements étaient, il le disait, d'ailleurs, il a dit, c'était une quelque chose d'incompréhensible, enfin que des jeunes qui étaient quand même très très privilégiés, qui n'avaient pas connu de guerre, qui vivaient dans une période d'expansion, se révoltent. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il le disait d'ailleurs à ses petits enfants. Il a dit d'ailleurs, il a eu cette phrase, la situation était insaisissable. Pompidou lui avait des antennes. Et essayer de comprendre ce qui se passait. Et quelques mois auparavant, il avait été très frappé par le film de Godard, la chinoise. Il organisait assez régulièrement à Matignon des réunions amicales au cours desquelles des films étaient projetés. Et donc il y avait une projection de la chinoise. Et les amis de Pompidou avaient tous exprimé leur incompréhension de cette espèce d'objet non identifié qu'était ce film. Et Pompidou avait dit que, bon, il n'avait pas une explication totale du film, mais il avait dit il avait pressenti quelque chose. Il avait dit c'est sans doute la préfiguration d'un univers qu'on ne connaît pas, mais qui transparaît à travers ce film assez étonnant. Donc quand les événements de 68 sont arrivés, il a su les décrypter, il a su hiérarchiser les problèmes, et je crois que c'est ça qui a fait qu'il a eu une démarche qui était à la fois de fermeté et aussi de compréhension des ressorts de la révolte. Et je crois que c'est ce mélange d'humanisme et de fermeté qui a fait qu'il a été perçu par l'opinion comme l'homme de la situation, et ce qui lui a donné, au fond, les clés de l'Élysée un an plus tard.
On l'a longtemps vu comme un libéral, Georges Pompidou, négligent sur les questions sociales. Or, dans votre biographie, vous rappelez que selon René Raymond, sous son mandat, les améliorations apportées au sort des salariés ont été au moins aussi importantes que celles obtenues en 36 sous le Front Populaire. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai que le SMIC a été revalorisé de 28%, la retraite minimale augmentée de 44%. On se portait pas si mal dans les classes populaires sous Georges Pompidou.
Alors là, il faut distinguer Pompidou Premier ministre et Pompidou Président de la République. Parce que dans mon livre, il y a un graphique qui m'a été donné par quelqu'un qui n'était pas un hyper-gauchiste, qui était le président du CNPF de l'époque, qui s'appelait Paul Uvelin. Et ce graphique est quand même assez éloquent. Il donne pas évidemment la clé unique de mai 68, mais il tend à expliquer, si vous voulez, pourquoi à la crise étudiante s'est superposée une crise sociale assez importante et qui a bloqué le pays. Et on voit dans ce graphique, d'une façon vraiment aveuglante, que de 1962 à 1968, il y a eu un décrochage des bas salaires, de ce qu'on peut appeler le pouvoir d'achat des smicards, quoi. Et Georges Pompidou, à partir de ce moment-là, alors ça explique là, cette revalorisation du SMIC de 68, qui n'a pas toujours été comprise, mais en réalité c'était un rattrapage finalement de toutes ces années durant lesquelles le pouvoir d'achat des bas salaires avait stagné. Et à partir de ce moment-là, Georges Pompidou a été très attentif à ce problème. Et durant son septennat, effectivement, il a profité de ce contexte économique favorable pour être plus attentif aux réalités sociales. Alors on a beaucoup dit qu'il était que c'était au fond que cette attention aux problèmes sociaux était ce qui le différenciait de son premier ministre qui était Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, on le sait, avait lancé en septembre 69, sans d'ailleurs en avertir beaucoup Pompidou, un discours qui est resté dans l'histoire comme le discours de nouvelle société. Pompidou en avait été très mécontent, d'abord parce qu'il n'avait pas été averti, ce qui quand même était peu convenable, et aussi parce que il y avait une sorte de, comment dire, c'était la tonalité générale du discours qui lui déplaisait. Il disait la nouvelle société, ça n'existe pas, on ne part pas de rien, on construit quelque chose comme ça, pièce par pièce. Mais ça ne veut pas dire que ponctuellement, sur un certain nombre de problèmes très déterminés, de problèmes sociaux notamment, ça ne veut pas dire qu'il était en désaccord avec Jacques Chaban-Delmas, et vous l'avez très bien dit, il y a eu sous sa présidence des progrès notables. D'ailleurs, il n'y a pas eu de... Je crois que, vous savez, tous les présidents qui se sont succédés après mai 68, que ça a été Pompidou ou Giscard, moi je l'ai assez bien connu, puisque j'ai écrit aussi un livre sur lui, il me disait, mais ça a été ma hantise que mai 68 ne se reproduise pas. Donc, si vous voulez, c'était... ça explique cette attention aussi que Pompidou avait pour ses problèmes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il était issu d'un milieu modeste, il avait une vraie sensibilité populaire.
On fait une pause, Éric Roussel, on se retrouve tout de suite après, on continue d'évoquer Georges Pompidou.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou, la biographie que lui a consacrée Éric Roussel vient d'être rééditée en poche. Est paru également un dictionnaire Pompidou aux éditions Fayard. Le plus singulier dans l'itinéraire de Georges Pompidou, j'ai l'impression, c'est qu'il semble avoir été là un peu par hasard. Il n'avait pas de vocation politique jusqu'à son entrée dans le cabinet du général de Gaulle à la Libération. Et c'est par fidélité au général de Gaulle qu'il est resté auprès de lui ensuite, qu'il a quitté la bande Rothschild, où il était pourtant très heureux, pour devenir Premier ministre. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé le dauphin du général. Rien de tout cela, au fond, n'était prévu. Mais il a tout assumé, et brillamment en plus.
Oui, Georges Pompidou est sans doute le seul, enfin l'un des seuls, en tout cas président de la Ve République, dont le destin n'a pas été entièrement prémédité. Alors, c'est évident jusqu'en 1945. Là, il n'a absolument aucune activité politique, si ce n'est que quand il était jeune, il était issu d'un milieu de gauche. Son père était un militant socialiste. Lui aussi a été. On a même découvert lorsque édité ses écrits inédits avec son fils Alain, il y a une douzaine d'années, que brièvement, il avait adhéré à un groupuscule qui est d'apparence trotskiste. Enfin, ça n'a pas dû durer très longtemps. Et il avait milité dans une ligue antifasciste dont le président était Pierre Mendès-France. Et j'avais vu Mendès-France deux jours avant sa mort, c'est le hasard. Et il m'avait dit, en souriant, on ne s'était pas beaucoup fréquenté à l'époque parce que moi, j'étais déjà radical et lui était un socialiste remuant. Et donc il était parti, si vous voulez, de ce point de départ, enfin de cette adhésion, enfin de caractère un peu familial. Et puis tout au long de l'entre-deux-guerres, il n'avait cessé en réalité de s'éloigner de la politique. Vraisemblablement, même si c'est pas toujours exprimé de façon claire, parce qu'il était déçu, si vous voulez, par l'évolution de la Troisième République finissante, qui n'avait rien, effectivement, de bien enthousiasmant, et puis qui aboutit, comme on sait, à ce désastre de 1940. Et puis, alors, arrive la période de la guerre. Bon, on sait qu'il a pas, il est allé ni dans un sens, ni dans un autre. Il faut dire que c'était le contraire, hein, d'un homme d'aventure. Il était pas du tout fait pour ça. Ça a été vrai pendant la guerre. Ça sera vrai, par exemple, en 1958, lorsque le général de Gaulle reviendra au pouvoir, il est complètement extérieur à tous ce qu'on a appelé les 13 complots du 13 mai, etc. Voilà. Donc, la libération arrive, et là, il y a quelque chose il se produit quelque chose de vraiment d'extraordinaire, une sorte d'illumination, mais au sens un peu de Rimbaud. Il voit le général de Gaulle descendre les Champs-Élysées, et il a le pressentiment il y a toute la légende qui commence à entourer le général, etc. Et au fond, on a l'impression qu'à ce moment-là, De Gaulle lui apparaît comme l'homme qu'il attendait sans pouvoir le définir, en quelque sorte. Et à ce moment-là, alors il y a eu toute une légende pendant très longtemps. On a raconté, le général cherchait un agrégé sachant écrire. Alors ça, c'est complètement c'est complètement faux, ça n'existe pas. J'ai pu retrouver la lettre par laquelle Georges Pompidou fait acte de candidature au cabinet du général par l'intermédiaire de son ami et condisciple d'Hippocagne, René Brouillet, qui était le collaborateur du général de Gaulle. Donc il entre au cabinet du général dès la libération, enfin quelques semaines après la libération de Paris. Au début, évidemment, à un poste assez modeste, et puis comme il a des qualités évidentes, il se fait remarquer d'abord par le directeur de cabinet de Gaulle, qui était le Gaston Palevski, puis par le général lui-même. Et puis il s'établit un lien de caractère assez personnel, puisqu'il va devenir le trésorier de la fondation Anne de Gaulle, du nom de la fille du général et de Madame de Gaulle, qui était trisomique. Donc c'était un poste, si vous voulez, une mission de confiance, en quelque sorte, et qui atteste les liens très très forts rapport qu'il y avait entre eux. Mais pour autant, Pompidou, à ce moment-là, n'est pas vraiment un politique. Au fond, il joue auprès du général un rôle assez singulier, un rôle assez personnel. Et pour fixer les choses, par exemple, il est complètement à l'écart du Rassemblement du peuple français, c'est-à-dire ce mouvement que le général avait fondé en 1947. Et Pompidou voyait ça d'un œil assez perplexe, en pensant que c'était une entreprise qui était vouée à l'échec. En ce sens, il n'a pas mal vu les choses, puisque effectivement, c'est une affaire qui s'est fracassée dès 1953. Et on peut dire que, à partir de cette date, entre-temps, il est devenu conseiller d'État, il est devenu banquier, il est entré à la banque Rothschild, dont il est devenu le directeur. Et il reste auprès du général, mais il reste vraiment par fidélité et avec l'idée que le général ne reviendra jamais au pouvoir, qu'il est à Colombey, qu'il écrit ses mémoires et que la 4e République va suivre son cours. Et puis, arrive mai 58. Et alors là, le général revient au pouvoir et il appelle Georges Pompidou auprès de lui en tant que directeur de cabinet. Et là, pendant la courte période qui va de mai 58 à la fondation de la 5e République, c'est-à-dire en janvier 1959, là, Pompidou, comme directeur de cabinet du général, va jouer un rôle fondamental. Le général, lui, est axé essentiellement sur la Constitution, sur l'élaboration de la nouvelle Constitution, sur le problème algérien, mais au fond, tout le reste est vraiment du ressort de Pompidou, et notamment les problèmes financiers, le problème des réformes économiques, et financières, le lancement du nouveau franc, etc. Tout ça, Georges Pompidou voit ça de très près. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que à l'issue de cette période de 6 mois où il a joué un rôle si important, il ne fait pas partie du gouvernement de Michel Debré, que Michel Debré forme en janvier 1959. Et là, on a l'explication maintenant. Tout laissait à penser que Georges Pompidou avait fait à ce moment-là un pari, qu'il n'avait pas voulu entrer dans le gouvernement en tant que ministre, parce qu'il avait l'espoir un jour d'être nommé directement Premier ministre. Et il se trouve que l'Académie des sciences morales et politiques, dont je fais partie, a rendu un hommage à Georges Pompidou il y a un mois et demi à peu près, en présence d'Édouard Balladur, et Jean-Claude Trichet, donc l'ancien gouverneur de la Banque de France, mon confrère, a lu une lettre de son père, était un camarade de Pompidou. Et dans une lettre que Pompidou lui a envoyée, si mes souvenirs sont bons, il y a vraiment l'aveu de cette espèce de calcul que fait Georges Pompidou à ce moment-là. Calcul d'ailleurs qui était un peu risqué, parce que rien ne garantissait que, disons, à une échéance de 2 à 3 ans, Pompidou aurait toujours le profil recherché par le général. Et on sait d'ailleurs que le général a hésité entre lui et Louis Jox, qui avait été ministre des Affaires algériennes. Finalement, Pompidou est nommé Premier ministre. Alors là, à partir de là, il est évident quand même que à partir du moment où il est Premier ministre, il est bien évident qu'il songe à la suite. Et alors c'est plus un destin, c'est quand même un destin qui est beaucoup plus maîtrisé. On peut dire même un peu calculé, c'est bien normal, hein, c'est sûr. Et avec, évidemment, tous les problèmes que ça va poser dans ses relations avec le général, qui vont notamment à partir de 1965, où les choses quand même commencent à se gripper.
On fait une pause et on continue d'évoquer la figure de Georges Pompidou. On commémore, avec un peu de retard, le 50e anniversaire de sa mort. C'était le 2 avril 1974.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Éric Roussel. On s'interroge sur la nostalgie dont Georges Pompidou est aujourd'hui l'objet. On le voit comme quelqu'un d'une grande sagesse, qui ne perd jamais son sang-froid, même pas en mai 68, qui ne cède jamais au lyrisme ou à l'emphase parfois trompeuse du général de Gaulle. Il n'y a pas de « je vous ai compris » ou de « vive le Québec libre » dans la bouche de Georges Pompidou. On dirait presque qu'il n'a jamais commis d'erreur. Est-ce que c'est le cas, vous qui connaissez sa vie et sa carrière mieux que quiconque?
Là, écoutez, c'est une question un peu délicate que vous me posez là, parce qu'évidemment que la réponse dépend de celui qui se pose la question. Parce qu'il est évident que selon au gré des opinions, on peut considérer que Pompidou a fait telle ou telle erreur. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, ça donne quand même une indication. Si on regarde les sondages, il a fini quand même son quinquennat, puisque c'était avec un taux de popularité d'environ, si mes souvenirs sont bons, 55%, et alors même que la maladie dont il souffrait depuis 2 ans était quand même assez visible et créait un climat qui n'était pas euphorique. Donc je crois qu'il a été perçu quand même comme quelqu'un qui n'a pas commis trop d'erreurs. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a deux sortes, à mon avis, de présidents de la Ve République. Il y a les présidents qui sont restés fidèles à leur électorat et les présidents qui les ont, disons, plus ou moins malmenés. Alors, c'est le cas de De Gaulle, puisque De Gaulle se fait réélire, revient en surfant, en quelque sorte, sur la révolte des Français d'Algérie. Et puis, vous connaissez la fin, en 1962, c'est-à-dire l'indépendance, les accusations de trahison, etc. Ensuite, il y a Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'est plus compliqué, parce qu'il avait quand même un petit peu... C'était quand même un peu révélé avant. Mais enfin, il fait une politique, au moins pendant les 2 premières années, qui n'est pas exactement celle, avec toutes ces réformes, qui n'est pas exactement celle d'une partie de son électorat. Et puis, il y a Mitterrand. Il y a Mitterrand, qui plus tard, c'est le fameux tournant de 1983, où sans le dire, il tourne complètement catac. Alors Pompidou, lui, il est le prototype des présidents qui restent fidèles, au fond, à leur électorat. C'est peut-être aussi un des ressorts de sa popularité, à une époque où on accuse justement les hommes politiques de ne pas de louvoyer, de ne pas être fidèles à leur parole. C'est une interprétation, enfin c'est peut-être une clé.
C'est aussi quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle quand même, parce que c'est un professeur de français, latin et grec, devenu chef de cabinet du général de Gaulle, qui à 41 ans rentre à la banque Rothschild et s'initie en un clin d'œil à la finance, qui lui est pourtant totalement inconnue, hein, au point de devenir directeur général de la banque, tout en écrivant une anthologie de la poésie française et en roulant au Porsche. On a l'impression que c'est l'honnête homme du XXe siècle, hein, familier des affaires, de la politique, de l'économie, expert en poésie, en art et en voiture de sport et en langue morte. C'est pas un dilettante, Georges Pompidou. C'est une Formule 1.
Non, et puis vous avez fait allusion à toutes ces étapes de sa vie, et je pense que ce qui l'a beaucoup servi dans l'exercice de ses fonctions de président, c'est une expérience très très riche de la société française. Il a été, si on considère son parcours, bon, il a été d'abord enseignant, ensuite il est collaborateur du général de Gaulle, il a été conseiller d'État. Il a été directeur de la Banque Rothschild, premier ministre, et tout ça lui a donné, si vous voulez, quand il est arrivé à l'Élysée en 1969, il avait non seulement, il faut pas oublier qu'il avait été pendant 6 ans premier ministre, ce qui je crois est toujours le record, encore que Fillon a dû s'en approcher. Donc il avait à la fois une connaissance très grande des problèmes, parce que c'était un grand travailleur, mais il avait aussi une connaissance des hommes, parce que et des hommes dans des milieux extrêmement différents, et d'ailleurs pas forcément pour prendre un exemple précis, si vous voulez, ses amis, ses véritables amis, n'appartenaient absolument pas il n'avait aucun ami dans la classe politique, mais vraiment aucun. Le seul dont elle, mais enfin c'était pas vraiment un homme politique. Il a été longtemps assez proche de Malraux avant que les relations avec De Gaulle n'aient des répercussions sur leur relation, mais ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, il était ami de Jean d'Ormesson, il était ami de François Sagan, il y a qu'à voir d'ailleurs la correspondance que nous avons publiée en 2012 et qui vient d'ailleurs de reparaître aussi chez Tempus, pour voir qu'il est en contact avec Rebouquet, avec des gens comme ça, enfin qui n'étaient pas du tout de son bord. Mais il avait une vraie curiosité, si vous voulez, à la fois d'ordre artistique, sur le plan littéraire aussi. On voit qu'il avait un intérêt pour le nouveau roman. Bon, ça, je sais pas si ça n'a pas eu beaucoup de pérennité, à mon avis, mais enfin bon. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait des curiosités multiples.
Et qui aimait les avant-gardes.
Qui aimait les avant-gardes.
C'est pour ça que le nouveau roman... Voilà. Mais de tous les présidents de la Ve République, il est, me semble-t-il, le plus naturel à la télévision. C'est fascinant à regarder 50 ans après sa mort. Quand vous voyez Georges Pompidou, que ce soit en interview, en conférence de presse, ou que ce soit, il est beaucoup plus naturel que tous ceux qui lui ont succédé.
Oui, et il avait assez vite assimilé le métier, si j'ose dire, parce que quand il arrive en avril 1962, il n'a aucune expérience ni de la tribune de l'Assemblée nationale, ni de la télévision. Je crois qu'il n'est jamais passé dans une émission de télévision. Et il faut bien dire que ses débuts à l'Assemblée nationale avaient été assez laborieux. Il ne savait même pas où était l'escalier par lequel on montait à la tribune. Il fallait un petit peu le guider. Et ses débuts n'avaient pas été éclatants. Il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout de son bord et qui avait deviné l'étoffe du personnage et le talent qu'il allait révéler. C'est François Mitterrand. Et François Mitterrand, lors de ses débuts, avait dit à ses amis, ne vous laissez pas abuser par cette première impression qui n'est peut-être pas éclatante. C'est quelqu'un qui a du coffre et qui va se... Et d'ailleurs, il y a eu entre eux, alors c'est une relation assez bizarre parce qu'ils se sont pratiquement jamais rencontrés. Je crois qu'ils n'ont pas dû avoir un quart d'heure de conversation particulière ensemble. Mais on voit, moi j'avais interrogé quand en 83, j'ai été reçu par Mitterrand à propos de Pompidou. Et il avait laissé, il avait marqué quand même une certaine considération, beaucoup de considération même pour Pompidou, même s'il était évidemment pas du tout de son bord. Alors il faut dire aussi que c'était pour l'opposer violemment à De Gaulle, qu'il détestait. Et que, bon, mais oui, il m'a parlé de Pompidou, il m'a reçu une demi-heure à peu près, il m'a parlé de pendant 10 minutes de Pompidou, et le reste, alors que je lui demandais rien, il m'a parlé de De Gaulle pour l'accabler et pour introduire une sorte de... Il établissait une sorte un parallèle entre lui et Pompidou sur la base suivante. Nous avons été tous les deux victimes des agissements des polices parallèles gaullistes, etc. Il faisait évidemment allusion à cette épouvantable affaire Markovic qui a failli...
C'est leur seul point commun, parce que François Mitterrand a fait de la politique toute sa vie. Il a été élu député à 30 ans, ministre à 30 ans. Oui. Georges Pompidou, lui, comme on le disait, est entré en politique en même temps qu'il est entré à Matignon, c'est-à-dire à 50 ans. C'est quand même un destin assez particulier. Oui, oui. Merci en tout cas, Éric Roussel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre biographie de Georges Pompidou vient d'être rééditée chez Tempus et que vous avez collaboré à l'épais dictionnaire Pompidou qui vient de paraître chez Fayard. Merci encore.
Merci.
Et l'on va s'intéresser maintenant avec Yannis Eziadi à la corrida. C'était très bien vu sous Georges Pompidou. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Yannis Eziadi, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à l'origine de la tribune de soutien à Gérard Depardieu, parue dans le Figaro en décembre dernier, signée par une soixantaine de personnalités. Elle a fait quasiment l'unanimité contre elle. Hein. Aujourd'hui, vous publiez Minotaure, voyage au cœur de la corrida chez Fayard. Décidément, vous aimez les causes perdues.
Bah, c'est plus rigolo d'aller là où personne ne veut aller. Je vais pas me ruer vers ce vers quoi tout le monde se rue. Donc,
Y en a qui le font, et ils s'en portent pas plus mal.
Oui. Mais bon, la corrida, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Donc,
pourquoi ?
Tout comme Depardieu. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré dans les arènes la dernière grande tragédie. Moi qui adore la tragédie, qui adore les grands tragédiens que je ne trouve plus au théâtre. J'ai trouvé dans les arènes cette grandeur, ce tragique que je ne trouvais plus au théâtre. Voilà la raison principale de ce livre.
Alors la Feria de Nîmes aura lieu du 16 au 20 mai. L'année dernière, on a comptabilisé 175 000 spectateurs dans les arènes. C'était 10% de plus qu'en 2022. Que viennent-ils chercher, à votre avis ?
Alors, je crois qu'il y a eu un regain de ferveur grâce aux attaques, notamment d'Émeric Caron et de la volonté de faire cette proposition de loi.
Qui voulait l'interdire. Hein.
Voilà. Grâce à ça, on a invité les matadors à la télé et je crois que la France a découvert des garçons très beaux, très dignes, très élégants, qui leur ont parlé de choses dont ils n'ont pas l'habitude d'entendre parler. Et je crois que ça a suscité, en tout cas, une curiosité. Et j'ai vu que dans les arènes, je croisais beaucoup de gens qui venaient me dire que aussi ils m'avaient vu à la télé, tout ça, et que ça leur avait donné envie au moins de venir voir ce qu'était une corrida, parce que la plupart des gens ne savaient pas qu'on tuait en public des taureaux en France.
C'est quand même assez étonnant, parce que l'apogée de la corrida, on va dire que c'est d'entre la fin des années 60 et la fin des années 90. Dans la fin des années 90, elle est médiatisée comme elle ne l'avait jamais été. On la voit sur Canal+, on la voit partout. Vous m'étonnez quand vous me dites que les Français ne savaient pas qu'on tuait des taureaux.
Et bien sûr. Ça vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai fait des émissions ensuite dans la rue, les gens me disaient, mais je savais pas qu'on... Non, vraiment. Je pense que les gens sont pas au courant.
Parfois, les gens jouent les naïfs après, vis-à-vis de ceux qui passent à la télévision. C'est peut-être une façon de se moquer de nous.
Non, je pense vraiment que les gens n'étaient pas au courant que des corridas avec mise à mort avaient encore lieu en France.
Ah bon. L'enjeu d'une corrida, c'est bien la mort, pourtant. La mort du taureau, dans tous les cas, celle du torero, parfois. Jean Cocteau, que vous citez, qui était un passionné de corrida, appelait les taureaux les ambassadeurs de la mort. Vous vous dites que c'est aussi l'amour, pas seulement la mort.
C'est-à-dire que le spectacle de la corrida, pourquoi on assiste à ce à quoi on assiste ? Parce que le torero, l'homme, a cette passion, cet amour du taureau, et qu'il va lui être animé par un désir de beauté et de grâce, et le taureau va être animé par sa pulsion de détruire son adversaire. Donc il y a évidemment la mort et l'amour, et puis la mort parce que de toute façon évidemment ce qui conclut cette danse et cette étreinte évidemment est la mort.
Vous y voyez une étreinte, vous ?
Ah ben, il y a quelque chose de... Moi, au départ, j'ai commencé en lisant des livres sur la corrida. C'est comme ça que je me suis rendu aux arènes pour la première fois il y a quelque chose comme 4 ans. Et je pensais que Cocteau ou Monterland exagéraient ce côté.
Ou
Hemingway exagéraient tout ça. Mais c'est vrai que lorsque on assiste à une grande faena, c'est-à-dire une grande chorégraphie entre l'homme et la bête, il y a quelque chose de très très mystérieux, de très intime et de très sensuel entre les deux protagonistes qui est déstabilisant. Et c'est pour ces moments-là qu'on se rend dans les arènes notamment.
Yannis Eziadi, c'est le spectacle de la souffrance animale qui révolte ceux qui veulent interdire la corrida, hein, en général. Ils ne demandent pas qu'on interdise de tuer des animaux, ils demandent qu'on n'en fasse pas un spectacle.
Oui, mais moi je réponds à ça que je n'ai jamais assisté à la souffrance animale. Je pense que si on assiste à la souffrance animale, nous partirions. Et dans le livre, j'interroge Alain Finkielkraut, qui a vu une seule corrida dans sa vie, qui était plutôt opposé à l'idée, en tout cas, d'aller voir une corrida, parce qu'il est très soucieux du bien-être animal, et il raconte qu'il a été très étonné de ce à quoi il a assisté, et il n'a pas du tout assisté au spectacle cruel auquel il s'attendait, parce que le taureau, c'est comme ça. On peut dire il souffre, d'accord, si on veut. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il montre.
Pour vous, c'est plus qu'un spectacle, hein, c'est un art. Et les toreros ne sont pas des tueurs, ce sont des artistes. Alors là encore, vous n'êtes pas le premier à le dire. Hein, Picasso, Ava Gardner, Jean Nouvel, Christian Lacroix, pour ne pas dire Hemingway, Cocteau et Monterland, l'ont dit avant vous. Alors en quoi les toreros peuvent-ils être regardés comme des artistes ?
Bah, à mon sens, ce sont des artistes parce que leur quête est esthétique. Ils ont, elle est esthétique et ils ne peuvent pas expliquer cette esthétique. Et il y a la recherche de la beauté et il y a aussi l'impossibilité d'expliquer cette beauté, l'impossibilité complète. Un torero n'est pas vraiment capable ensuite, même une fois qu'il a accompli son geste, d'expliquer pourquoi la grâce est descendue ce jour-là.
Mais cette beauté dont vous parlez, dont parlent tous les aficionados, hein, les amoureux de la corrida, n'est-elle pas un peu surannée ? Ces habits de lumière, tout semble d'un autre temps, et a fortiori aujourd'hui, où, comme vous le dites, les gens sont de plus en plus sensibles au bien-être animal, ou en tout cas à l'absence de souffrance.
Mais alors c'est justement aussi, à mon avis, pour ça que la corrida a attiré l'été dernier, après la médiatisation avec Caron, tout ça, et à mon avis, c'est comme ça qu'elle peut attirer, c'est parce que il y a un anachronisme total. C'est-à-dire que dans ce monde qui s'avachit complètement, où moi aussi, pourtant je prône les valeurs de la corrida, je viens en jean, en chemise ouverte, bon, là on retrouve une rigueur, une dignité, l'importance de ce que l'on montre, c'est pas je suis comme je suis, non, on réfléchit à l'image qu'on renvoie de soi, et donc, oui, il y a quelque chose de totalement, totalement anachronique, et je pense que c'est aussi ce qui fascine qu'aujourd'hui encore, des hommes viennent habillés de soie et d'or affronter une bête sauvage. Ça paraît même une folie.
Le problème, c'est que la bête sauvage, elle, n'a rien demandé. Hein. Elle se retrouve au centre de quelque chose qui la dépasse. Elle a passé plusieurs années à gambader dans les prés et brusquement, la voilà dans une arène entourée d'hommes en costume de lumière qui lui font comprendre à coups de pique et à coups de banderille qu'il n'est pas là pour rigoler. En 10 minutes, il en apprend plus que vous et moi au cours de sa vie entière, dit-on.
Oui, si je puis me permettre, celui qui fait comprendre à l'autre qu'il faut pas rigoler, c'est le taureau, puisque le matador n'a qu'à entrer sur la piste pour que le taureau lui charge dessus. Le premier qui attaque, c'est le taureau.
Mais vous savez bien pourquoi un taureau, normalement, n'a jamais vu un homme à pied.
Bien sûr, mais le taureau, c'est tout simplement que ce territoire, il l'a fait sien, et celui qui vient l'emmerder, celui qui refuse de partir face à lui, il est à abattre. Mais ce serait pareil dans son champ. Et d'ailleurs, les taureaux s'entretuent entre eux, je le raconte longuement, les taureaux dans les élevages s'entretuent pour des raisons, pour des bricoles. Ils s'entretuent entre frères et ils font des combats qui sont 10 000 fois plus épouvantables que ceux qu'il y a dans l'arène. On voit des taureaux s'étriper entre eux et un taureau, pour terminer son combat avec l'autre taureau, va piétiner ses propres tripes. C'est des combats d'une violence absolument inouïe. La violence est dans le taureau. C'est pour ça qu'on fait ce spectacle avec cet animal-là. On pourrait pas le faire avec un autre animal. N'importe quel animal fuirait après s'être pris une pique au garrot. Le taureau, non. Il y retourne. Et encore une fois, jamais il ne montre de signe de souffrance ou même d'affaiblissement. Jusque dans le moment où tout le monde se rend compte, puisqu'il a une épée dans lui, il est en train de mourir, lui, non, refuse de montrer le spectacle de la débâcle et résiste jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il s'effondre.
Pour vous, le taureau est un animal différent des autres ?
Bien sûr. Mais c'est ce que les animalistes ne veulent absolument pas comprendre, évidemment. C'est que chaque animal est différent. On ne peut pas projeter nos propres douleurs, nos propres souffrances sur un taureau. C'est absolument ridicule. Jamais un animal ne serait capable de faire ce que fait un taureau. Ni une girafe, ni un cheval.
Pourquoi est-il différent ? Est-ce que vous vous êtes demandé d'où ça vient ?
Ah, d'où ça vient ? Non, je ne me suis pas demandé d'où ça vient. Ce que je sais, c'est qu'un taureau est un animal qui se bat et qui, lorsque on ne fuit pas devant lui, cherche à exterminer son adversaire jusqu'au bout. Il répète les charges, même si le combat est perdu d'avance pour lui, même au moment où lui-même sent qu'il est mort, il refuse de s'avouer vaincu.
Pourquoi avez-vous intitulé ce livre « Minotaure »
Parce qu'il y a quelque chose qui naît entre le moment où le taureau et le torero entrent sur la piste et le moment où le taureau meurt, ou le matador meurt aussi, ça arrive. Chacun des deux évolue. Le taureau apprend un peu de l'homme et l'homme apprend du taureau auquel il fait face. Et donc, c'est pour ces moments-là qu'on vient dans les arènes, c'est le moment où il va y avoir cette fusion entre l'homme et l'animal, ce moment est assez rare. C'est souvent des moments d'attente, on attend, on espère et rien ne se passe dans les arènes, c'est ce qui est beau aussi. Mais il y a ce moment, parfois, où l'homme et l'animal sont en fusion complète, et donc c'est pour ça que je dis Minotaure, parce que parfois on a l'impression que l'homme et l'animal ne font plus qu'un.
On fait une pause, Yannis Eziadi, et on y revient, et notamment à ces 10 minutes pendant lesquelles le taureau est au contact de l'homme, on apprend sans doute plus que nous-mêmes au cours de notre vie entière.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Frédéric Tadie. Nous sommes ce matin avec Yannis Eziadi, l'auteur de Minotaure, voyage au cœur de la corrida, qui vient de paraître chez Fayard. On essaye de comprendre pourquoi il y a encore tant d'amoureux des corridas, en dépit de tout le mal qu'on peut en dire. J'insiste sur le temps d'une faena, sur ces 10 minutes pendant lesquelles, c'est Hemingway qui disait ça, le taureau en apprend plus que vous et moi au cours de sa vie entière. Et il apprend si vite, ça le rend si furieux qu'il faut rapidement le mettre à mort, parce que si ça durait plus longtemps, il comprendrait que ce n'est pas la cape qu'on agite devant lui qu'il faut viser, mais l'homme immobile qui se tient à côté, et il le tuerait à coup sûr.
Bien sûr. Enfin, il le tuerait à coup sûr. En tout cas, le combat serait de plus en plus difficile et de moins en moins esthétique.
Pour l'homme.
Pour l'homme et pour le spectateur. Oui, il y a un moment où il faut arrêter parce que... Et puis, il y a aussi de l'agacement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le taureau s'agace. Imaginez, il se lasse de répéter toujours, il y a quelque chose, voilà, il y a un moment, il faut arrêter, c'est plus...
Mais est-ce que vous croyez, comme Hemingway, qu'il comprend de plus en plus ce qui lui arrive au taureau, et que forcément il va finir par viser l'homme et non plus la cape, et tuer l'homme, et c'est pour ça qu'il faut le tuer aussi.
Oui, évidemment qu'il comprend de plus en plus, parce que le taureau de combat, faut quand même rappeler que c'est un animal qui est élevé en quasi-liberté, lui pense en tout cas qu'il est en liberté. L'homme fait tout pour être le moins présent possible, le moins visible possible. Donc c'est un animal qui vit libre. Et sans qu'il le sache, l'homme va jouer à Dieu un peu et va décider de dire ce taureau là-bas, c'est lui qu'on va envoyer à dans l'arène. Et donc ce taureau ne sait pas ce qu'il attend, ne sait pas que son destin, parce que faut rappeler que je crois que c'est 3-4 entre 3 et 5 % du cheptel qui part dans les arènes, c'est très 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 peu de taureaux. Donc le taureau ne sait pas que cette carte du destin s'abat sur lui, et lui va se retrouver de couloir en couloir sans trop comprendre dans un camion, et ce camion va s'ouvrir, il va se retrouver de couloir en couloir dans une arène où un homme l'attend. Donc c'est
plusieurs hommes.
Ah oui, bien sûr, plusieurs hommes. Donc ce taureau est complètement pur et innocent. Il n'a pour lui que son instinct. Et voilà, donc ce qui fait que ce taureau, évidemment, ne connaît pas du tout le jeu auquel il va se prêter. Et au fur et à mesure, évidemment, il va commencer à comprendre ce que l'homme, lui, a réfléchi depuis bien plus longtemps. Évidemment, c'est pas du tout un combat totalement équitable, puisque de toute façon, on sait que la règle du jeu, plus ou moins, c'est que l'homme reste vivant et que le taureau meurt.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a un côté inexorable dans la corrida. Les règles sont fixées de telle manière que le taureau ne peut pas gagner. Même si beaucoup de toreros ont été tués, parmi les plus grands d'ailleurs, les plus courageux, ceux qui prenaient le plus de risques, il n'en reste pas moins que le taureau meurt à la fin. Il n'a aucune chance.
Non, bien sûr, il n'a. Non, non.
Ça vous gêne pas ?
Bah non, de toute façon, non. Et puis, de toute façon, je n'ai aucun problème à ce qu'on tue un animal. Je n'ai aucun problème à ce qu'on tue un animal si ça vaut le coup de le tuer. Alors moi, je pense que tuer des animaux pour les manger, je pense que ça vaut le coup de les tuer. Est-ce que tuer un animal pour la beauté, pour un spectacle qui émeut des centaines de milliers de personnes, c'est moins important que pour rassasier des beaufs en steak de supermarché toute la journée? Non, je pense que c'est aussi important, peut-être même plus important. Donc j'ai aucun problème. Après, je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec un animal. Et moi, je suis beaucoup plus soucieux du bien-être animal depuis que j'ai découvert la corrida, parce qu'il y a toute une morale, toute une éthique dans la corrida, c'est-à-dire tirer d'un animal quelque chose à notre profit, oui, à une condition: ne contrarier sa nature en rien. Et ce que donne le taureau dans une arène, il le donne naturellement, jamais on ne le contraint.
Mais vous venez de parler de beaufs qui mangent de la viande. J'ai l'impression d'entendre une écologiste, Yannis Azzi.
Ah, je blague.
mais j'allais vous dire que d'autres, les ennemis de la corrida, voient au contraire dans ceux qui viennent à la feria de Nîmes, à laquelle vous serez, j'imagine.
Bien sûr.
Comme tous les aficionados, c'est là qu'elles voient des beaufs qui se repaissent du sang des animaux.
Oui, mais c'est le contraire de ça. Il suffit de venir dans une arène pour voir. Moi, j'étais très surpris. La première fois que je me suis rendu aux arènes, c'était à Béziers. Je le raconte dans le livre, c'est le début du livre. Et j'étais très, très ému de voir tout ce public très, très mélangé, des gens très chics, des gens très populaires, beaucoup de jeunes, et de voir tous ces gens déjà se lever au début, au paseo, quand les matadors entrent et que tout le monde chante l'air du toréador de Bizet, voir tous ces gens se lever solennellement chanter l'air du toréador, ensuite voir tous ces gens qui, pour certains, ont bu avant de se rendre aux arènes, ont un peu fait la fête, voir au moment de la mise à mort ce silence total, ce respect du moment du sacrifice de l'animal. Non, c'est le contraire de la barbarie. Voir, ça c'est Rudy Ricciotti, l'architecte, qui le raconte dans le livre, il dit c'est le contraire de la barbarie. Il dit quand je vois des dizaines de milliers de personnes pleurer ensemble dans les arènes sur un seul mouvement de cap de José Tomás, l'argument de la barbarie ne tient plus debout. Tous les gens sont là, pas du tout pour un spectacle sanglant. Pour le spectacle de la mort, oui, mais pas pour un spectacle de violence.
Vous avez parlé de José Tomás, tout le mérite revient au torero, hein, qui a le courage d'affronter l'animal, d'affronter la mort. Et il faut beaucoup de courage, hein, pour affronter un taureau furieux de 5 à 600 kilos qui fonce sur tout ce qui bouge. Pourquoi le fait-il? Vous en avez interrogé beaucoup pour écrire ce livre. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Sa supériorité?
Non, moi, en tout cas, ce que je ressens dans les gens que je connais ou que j'ai interrogés, c'est vraiment ce qui les pousse là, c'est la beauté, le geste artistique. Vraiment, vraiment, vraiment. En revanche, ce qui les a amenés aux arènes, et ça, dans le livre, j'interroge Simon Casas, le directeur des arènes de Madrid, qui était torero, et un autre ancien torero qui s'appelle Ramon Cuquiol. Et les deux, c'est drôle, séparément, je les ai interrogés. Ce qui les a amenés dans les arènes, à chacun, c'est la mort de leur père. Voilà. Alain Moncouquiol savait que son père, son père est décédé quand il avait 7-8 ans, je crois. Personne ne lui a parlé dans la famille de la mort de son père. On lui a dit oui, sois courageux, ce qui pour lui revenait à lui dire tais-toi. Ils ont déménagé avec sa mère, ils sont arrivés à Nîmes, et là, dans la cour de récréation, il s'est retrouvé avec des jeunes qui disaient, t'as vu le taureau, comme il l'a tué, et tel torero qui est mort. Et là, il a entendu la mort, et il a voulu aller aux arènes pour se rendre compte de ce qu'était la mort de son père. Simon Casas, pareil. Simon Casas savait que son père était condamné par une maladie. Il savait que son père allait mourir. Il assiste pour la première fois à une corrida assis sur les genoux de son père, et il dit que dans les dernières charges de la bête, pendant qu'elle était en train de mourir, il essayait de comprendre la mort de son père. Donc je crois qu'il y a aussi la compréhension et la fréquentation de la mort qui est aussi évidemment un attrait de la corrida.
Mais vous voulez dire que la corrida serait une allégorie de la mort, y compris de la mort des êtres humains ?
Ah bah, bien évidemment, c'est pas si commun, surtout dans notre monde aujourd'hui, de voir un animal, et pas un petit animal, un animal de 500 kilos, mourir sous nos yeux. C'est pas commun.
Non, c'est ce que la plupart des gens veulent pas voir.
Justement. Bien sûr. Et moi, comme je vous l'ai dit, d'abord j'ai lu des livres, et ensuite j'ai eu envie d'y aller, et en même temps, je redoutais de voir. Et la première fois que j'ai vu 6 taureaux être mis à mort dans une corrida, alors j'ai pleuré de beauté sur plein de choses, mais je suis sorti de ce spectacle fatigué de ma première corrida, parce que voir un animal mourir sous ses yeux, surtout un animal de 500 kilos, ça n'est pas rien. Et on comprend plein de choses, on réfléchit à plein de choses.
Merci Yannis Eziadi. Minotaure, voyage au cœur de la corrida, ça vient de paraître chez Fayard. Et la Feria de Nîmes, donc, ce sera du 16 au 20 mai.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé demain, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous. Europe 1 CNews, les échos animés par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, redites-nous qui est votre invité.
Bonjour cher Frédéric. Notre invité au grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos est le politologue Jérôme Fourquet. Et pour l'interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Merci Sonia, bonne émission.